Le magazine des Nations Unies.
Bon dimanche à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Tout de suite, le sommaire. 211 civils sont morts dans les prisons congolaises entre janvier 2010 et décembre 2012. C'est ce que révèle un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNUDH. Pour changer les choses, la MONUSCO préconise un plan de réforme pénitentiaire pour humaniser les maisons carcérales en RDC. Dans cette édition, vous suivrez la déclaration du chef de la police UN, le général Abdallah Wafi. La rougeole désormais maîtrisée dans le territoire de Kabalo et dans une partie de Ankoro dans la province du Katanga, c'est le résultat de la campagne de riposte organisée en mi-janvier selon l'OMS. Cependant, des efforts restent encore à faire pour venir à bout de l'épidémie dans la région. C'est notre nouvelle en province. Un atelier sur la revue annuelle du projet P4P du PAM et de la FAO a réuni experts de ces deux agences, bailleurs de fonds et bénéficiaires de ce projet. Dans cette émission, le coordinateur national du P4P va nous expliquer en quoi consiste ce projet. Ce sera le décryptage du magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Nous vous le disions dans le sommaire, 211 civils sont morts dans les prisons de la RDC entre janvier 2010 et décembre 2012, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Pour mettre fin à ce tableau sombre, la MONUSCO préconise un plan de réforme pénitentiaire. Le général Abdallah Wafi, chef de la police de la MONUSCO, l'a dit au cours de la conférence de presse des Nations Unies. C'était le mercredi dernier à Kinshasa. Ses propos sont recueillis ici par Honoré Missinga.
Nous pensons au niveau de la MONUSCO, nous pensons au niveau des Nations Unies qu'il est impératif pour les autorités de la RDC d'avoir carrément un plan de réforme pénitentiaire. Parce que le phénomène est vraiment très préoccupant, c'est l'ensemble des prisons congolaises qui ne répondent pas aux normes, qui ne respectent pas les standards minimums par rapport aux conditions de détention. Et nous pensons que seul un plan de réforme pénitentiaire peut, avec l'appui de la communauté internationale, mobiliser les ressources pour appuyer les autorités, enfin, vraiment, d'avoir un plan de réforme, depuis le statut du personnel, parce qu'il faut du personnel spécialisé dans les prisons, il faut soigner les prisonniers, il faut réhabiliter. L'objectif final, c'est la réinsertion plus tard de ces condamnés. Voilà pour les prochains mois l'axe sur lequel nous allons travailler avec nos partenaires du ministère de la Justice pour pouvoir obtenir vraiment à terme l'humanisation des prisons congolaises.
Le rapport du BCNUDH précise que les mauvaises conditions de détention sont les causes principales du nombre élevé des décès dans les prisons congolaises. Il s'agit notamment du surpeuplement, de la malnutrition, de l'accès limité aux soins de santé, du manque des ressources ainsi que de la torture et des mauvais traitements.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Des experts du PAM et de la FAO ainsi que des partenaires nationaux et internationaux publics et privés du secteur agricole en RDC se sont réunis du 12 au 13 mars à Kinshasa en un atelier d'évaluation du projet P4P en anglais, Purchase for Progress, qui veut dire en français achat pour le progrès. Notre invité pour le décryptage, c'est Francis Alain Béret. Il est le coordonnateur de ce projet au PAM, Programme Alimentaire Mondial. Il nous explique justement le concept P4P. Il répond aux questions de Norémi Sengakalala. Suivez.
Monsieur Francis Alain Béret, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez de participer à un atelier sur la revue annuelle du projet P4P du PAM, Programme Alimentaire Mondial, en partenariat avec la FAO. C'est quoi le projet P4P?
Le projet P4P s'intitule Purchase for Progress en anglais et en français ça veut dire achat pour le progrès. C'est un projet des Nations Unies qui est conjointement exécuté par le PAM et la FAO et qui s'inscrit dans le relèvement communautaire et la relance agricole des pays.
Pourquoi le projet P4P en RDC?
Comme vous le savez, le Congo est un pays à fort potentiel agricole et l'agriculture compte beaucoup pour l'économie de ce pays. Donc pour les Nations Unies, il serait important de pouvoir renforcer ce secteur. Le projet pour le moment, il est en phase pilote. Il est exécuté dans la province de Katanga, précisément à Kabalo, et aussi à l'équateur, au niveau du territoire de Bikoro.
Pourquoi vous avez commencé par là ?
Ce projet se différencie de la plupart des projets qui sont existés actuellement par les Nations Unies, parce qu'il s'inscrit dans la durabilité. C'est un projet de développement. Ces deux zones présentent une certaine stabilité depuis les grands conflits que le Congo a connus il y a quelques années. Ces territoires aussi présentent un fort potentiel agricole parce que jadis, c'était les greniers en fait de ce pays. Il y a aussi les capacités en fait d'évacuation sur lesquelles nous misons pour pouvoir améliorer en fait la commercialisation des quantités produites.
Quel est le financement de ce projet ? Est-ce qu'on peut connaître les bailleurs des fonds ?
Le financement de ce projet est entièrement fait par deux grands donateurs, le Royaume de la Belgique et la France. Et on a enregistré une donation privée, la société de courrier express UPS, mais aussi il y a eu des contributions en nature que nous avons reçues du gouvernement provincial de Katanga.
Monsieur Francis Alain Béret, expliquez-nous un peu concrètement comment se passe le projet P4P sur terrain.
Le projet P4P essaie d'agir sur toute la chaîne de valeur agricole, en commençant par la production et jusqu'à au niveau de la commercialisation. Donc au niveau de la production, vous avez tout ce qui est organisation communautaire, la structuration du monde paysan, l'encadrement à la production, et après il y a le stockage, le traitement et le mise en lien avec les commerçants. Les commerçants sont regroupés, organisés, formés, et après nous essayons de faire en sorte qu'il y ait un marché entre producteurs et en fait commerçants des zones où le P4P est exécuté.
Combien de paysans, de producteurs vous avez déjà dû encadrer dans le cadre de ce projet ?
Le projet a d'abord eu lieu en 2009 dans la province de Katanga, où nous avons commencé avec 2000 producteurs. Et graduellement, ce nombre a été augmenté. Actuellement, nous avons 6500 bénéficiaires du projet à Kabalo. Par contre, dans l'équateur à Bikoro, nous sommes à la première année et nous avons 2000 producteurs qui sont encadrés, ce qui fait 8500 producteurs bénéficiaires au total. Parallèlement à ce groupe de producteurs, nous avons aussi le groupe des commerçants. À Kabalo, nous avons 88 commerçants et à Bikoro, nous avons 72. Et aussi bien les producteurs que les commerçants, ils sont d'abord réunis en groupement et par la suite, ils sont réunis en union de groupement.
Quels résultats vous attendez de cet encadrement ?
Le résultat que nous attendons après cet encadrement, c'est d'avoir une communauté beaucoup plus forte, une communauté qui produit en quantité et en qualité et qui arrive à commercialiser le surplus non consommé à travers les marchés locaux de manière à augmenter leurs revenus et prendre en charge leurs conditions de vie quotidiennes.
De 2009 à 2013 aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur le bilan de ce projet ?
Nous sommes en train de faire une étude, en fait une évaluation d'étape qui nous permettra de donner des données beaucoup plus chiffrées. Mais pour l'instant, je pense que sur les effets directs, nous avons sur place des organisations qui sont mieux organisées, qui ont vu leur capacité se renforcer et qui ont vu leur capacité de production qui sont augmentées. Ils ont pu aussi avoir accès aux marchés locaux pour pouvoir écouler leur production. L'exemple que je prendrai, c'est l'alphabétisation qui a été conduite dans la zone de Kabalo, en faveur des 500 femmes. Nous constatons maintenant que ces femmes sont en mesure de jouer des rôles beaucoup plus prépondérants dans leur ménage, aussi bien dans les structures dans lesquelles ils appartiennent.
À quel niveau du projet interviennent respectivement le PAM et la FAO ?
Le PAM s'occupe d'une manière générale de la coordination du projet. C'est son premier rôle. Le second rôle, c'est d'agir au niveau de l'appui à la commercialisation en mettant en place tout le circuit d'appui, tout ce qui est infrastructure routière, entreposage, contrôle, assurance de la qualité et aussi le transport. Par rapport à la FAO est dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire c'est l'appui à la production, c'est-à-dire améliorer la productivité.
Oui, M. Francis Alain Béret, après l'atelier de la revue annuelle du P4P, quelles sont les perspectives d'avenir de ce projet République démocratique du Congo ?
Oui, votre question est la bienvenue. Par l'objet de cette revue est de pouvoir faire le point de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, voir quels sont les axes pour pouvoir améliorer le projet. Mais je pense que vu le débat que nous avons conduit avec la participation des donateurs, des bénéficiaires et même du gouvernement, le sens est d'aller dans le renforcement et dans l'approfondissement de ce que nous faisons. Et comme nous sommes dans une phase pilote, on pourra voir plus tard comment élargir le projet à d'autres territoires et voire même à d'autres provinces sous condition que les financements nous soient accordés.
Monsieur Francis Alain Béret, merci.
Merci, Radio Capi.
En bref, rendons-nous d'abord à Goma, dans le Nord Kivu, où les volontaires des Nations Unies et la MONUSCO ont organisé samedi 16 mars une grande course dénommée la course de Tchoukoudou de Goma. 120 participants ont pris part à cet événement. Tous les bénéfices liés au sponsoring de la course serviront à soutenir la population de Kichanga, victime des affres des affrontements armés. Ici à Kinshasa, un livre d'une centaine de pages avec des photos en couleur sur les réalisations du PNUD en RDC vient de sortir. Le titre de l'ouvrage est « Visage congolais, action et changement ». Les photos contenues dans ce livre avaient déjà fait l'objet d'une exposition par le PNUD. C'était en décembre 2012 à l'Institut français à La Gombe. 18,3 millions de dollars américains, c'est le montant alloué par le Japon au projet dénommé la réponse d'urgence multisectorielle en faveur des enfants en RDC. L'UNICEF et l'ambassade du Japon ont procédé mercredi dernier à Kinshasa à la signature de ce protocole de coopération. Enfin, à la MONUSCO, la section Gender a inauguré jeudi 14 mars 8 toilettes construites à l'Institut scientifique de Bandalungwa, un projet KIPS dont le coût est évalué à environ 24 000 dollars. Américain.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Que faire pour que tous les enfants du Bas-Congo aillent à l'école? C'est l'objectif d'un atelier organisé de lundi au mercredi à Matadi avec l'appui de l'UNICEF. 70 femmes représentantes des différentes associations de femmes des 10 territoires de cette province y ont participé. Sylvie Foué, représentante adjointe de l'UNICEF, a pris part elle aussi à cet atelier. Elle est notre invitée. Sylvie Foué s'entretient avec l'un de nos correspondants au Bas-Congo, Guy Roger Niampala.
Madame la représentante, bonjour.
Bonjour.
Merci pour la disponibilité. La première question, c'est pourquoi un réseau des femmes pour l'éducation, 2 ans avant l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement?
Une beauté à tous. Et en 2 ans du millénaire, en fait, des objectifs en 2015. Donc, au Bas-Congo, si on reprend les chiffres, 4 enfants sur 5 rentrent à l'école. Et donc, il nous reste un petit chemin à parcourir ensemble, qui est donc 1 enfant sur 5 ne rentre pas. Et donc, ce réseau d'associations des femmes devrait permettre d'aller chercher ces enfants qui ne rentrent pas à l'école. Donc ça vient de la communauté et autour des confessions. Donc c'est d'aller au plus loin, au plus profond dans les villages, chercher ces enfants qui ne rentrent pas à l'école.
Quelles sont les différentes mesures ou recommandations prises ou pour justement améliorer cette situation dans la province du Bas-Congo?
Alors il y a ce réseau qui d'ailleurs réfléchit aujourd'hui, donc il va terminer avec un plan de travail, mais aussi ils vont travailler sur 2 axes. Donc l'accès, aller chercher ces enfants, donc de voir effectivement au plus profond, mais aussi la qualité. Parce qu'un enfant sur 2 ne continue pas à l'école. Donc l'accès et la qualité.
L'accès et la qualité, en dehors de la ville de Matadi, vous avez fait également Kinzangote, c'est pratiquement à plus de 40 km à l'ouest de Matadi. Peut-on connaître l'objet de votre visite dans ce coin de la province?
Oui, donc au-delà de l'éducation, nous travaillons pour la survie de l'enfant. Et donc l'eau et l'assainissement, c'est un programme important. Et donc je suis allée voir un village qui est un village assaini depuis 2008 et qui travaille justement pour continuer à faire que ce village est assaini. Et une des choses que j'ai retenues du président du village, du comité du village, c'était que la diarrhée a diminué dans le village depuis que le village est assaini. Donc c'est très concret et donc j'ai voulu un peu voir comment ça se faisait et comment au sein du village, eux-mêmes, ce qu'ils pensaient du programme qu'on accompagne, qui est le village est assaini.
Par rapport à ce village assaini, Madame la représentante, vous pensez également étendre ce projet dans les coins les plus reculés de la province parce qu'il y a un besoin dans ce sens-là?
Oui, maintenant, donc, le défi, c'est effectivement, ça fonctionne, c'est un mécanisme, une pratique qui fonctionne, et ce n'est pas, je dirais, c'est la communauté qui doit être prise de conscience. Donc, c'est un programme qu'on appuie au niveau du gouvernement et des autorités locales. Et effectivement, maintenant, c'est d'aller non seulement de maintenir le village assaini, mais aussi de faire plus de villages.
Il y a des défis à relever.
Oui, merci. Et ce que je voulais dire par rapport au programme du village assaini que j'ai visité ce matin, c'est qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des bonnes choses. Et donc, c'était intéressant avec le président, il faut le faire savoir et surtout être les ambassadeurs des villages assaini. Donc il y a des bonnes choses, des bonnes pratiques constructives et positives à Assaini.
Certaines femmes de la province n'ont pas pris part à cette activité. Quel message pouvez-vous leur lancer au regard même des objectifs et des recommandations ici?
Alors ici, c'est vrai, en fait, les femmes qui sont venues ici sont des représentants, des diplomates de leur village. Donc en fait, elles représentent toutes les voix. Donc même si physiquement elles ne sont pas là, en fait, la force du réseau, c'est effectivement une toile d'araignée qui représente toutes les voix. Mais si je peux peut-être leur redonner le message d'ailleurs qui était inscrit sur la bannière ici, je vais le dire dans la langue locale, mais je peux dire Beto Tunga Kimvuka.
Beto Tunga Kimvuka, c'est-à-dire construisons ensemble. Avant-dernière préoccupation, de plus en plus d'enfants sont détenus dans les prisons du Bas-Congo. Qu'est-ce que l'UNICEF, excusez-moi, peut apporter pour ces enfants dont la place n'est pas en prison et malgré leur conflit avec la loi?
Je suis aussi allée voir hier ce qu'on appelle le tribunal pour enfants. Donc avant justement que ces enfants arrivent en prison, c'est essayer de voir quelles sont les solutions alternatives. Alors il y a deux façons de travailler. D'abord de faire de la médiation. Donc on est en train de travailler et d'agrandir ce programme. Et l'autre effectivement, c'est que le juge pour enfants puisse avoir des espaces parce que certains délits ou certains actes doivent être pas punis de façon de mettre les enfants dans des espaces emprisonnés, mais doivent être sanctionnés. Et donc de trouver des alternatives, que ce soit des familles d'accueil ou des centres particulièrement de transit ou d'hébergement pour enfants. On y travaille. Il y a déjà dans la prison un espace qui est aménagé, mais ça reste dans la prison effectivement. Donc, familles d'accueil et zone de transit, mais en même temps médiation avant d'avoir ces enfants qui soient effectivement emprisonnés. Donc, c'est un programme avec le juge pour enfants. Je félicite parce que Matadi a un tribunal pour enfants et on espère également l'étendre à Boma.
Dernière préoccupation, madame, la journée de la femme, et la femme, c'est-elle la maman des enfants. Un message particulier adressé aux femmes qui vous suivent en ce moment sur Radio Okapi, femmes du Bas-Congo et de la RDC en général.
Moi, je retiendrai la banderole qu'elles-mêmes ont mis aujourd'hui, c'est qu'elles doivent se lever et revendiquer leurs droits. Et donc, aux mamans, merci à la communauté, aux mamans, voilà, de vous exprimer et de demander vos droits. Et le droit pour les enfants d'aller à l'école, d'avoir l'accès à l'eau potable et d'être en bonne santé.
Madame, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Retenons qu'un réseau provincial des associations de femmes pour la promotion de l'éducation au Bas-Congo, REPAFE, a été lancé au cours de cet atelier. Après avoir sévi les trois derniers mois à l'épidémie de rougeole et maîtrisée dans le territoire de Kabalo et dans une bonne partie d'Ankoro, dans la province du Katanga, c'est en tout cas ce que rassure un expert de l'OMS. Selon le docteur Juvenal Mukuta, c'est le résultat de la campagne de riposte organisée en mi-janvier de cette année. Cependant, le médecin de l'OMS prévient, des efforts restent encore à déployer, particulièrement dans les villages où certains parents manifestent encore une farouche opposition à la vaccination des enfants pour des raisons de conviction religieuse. Le docteur Mukuta est au micro de François-Xavier Mibé.
On attendait vacciner 102 988 enfants, mais on a pu atteindre 105,079 enfants. Ça, c'est dans la zone de santé d'Ankoro, qui est voisine, qui était également touchée. Mais dans Kabalo, on attendait vacciner 93 178 enfants, mais on a atteint 97 577 enfants, ce qui nous donnait une couverture de 105%. Nous avons un problème également de maîtrise de la démographie, mais cependant, nous avons connu des localités qui ont farouchement résisté à la vaccination. Dans la zone de santé de Kabalo, dans l'aire de santé de Moulonga, où il y a eu un refus collectif, c'est le cas du village Kanya et le village Boutélé. Nous voulons que la personne adhère volontairement à la vaccination pour une solution durable. Nous continuons des échanges avec ces communautés pour que les enfants soient vaccinés même en routine.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Tangongai na lelaka, motondi mangai te. Tangongai na lelaka, wapiyo. Maja mi sueko tangao, bolingo nangayo wa. Yehei, naniako emelandan sembo, nya bolingo, wapiyo. Wapiyo, yehei, wapiyo, wapiyo. Tangongai na lelaka, motondi mangai te. Tangongai na lelaka, wapiyo.
Mon nom est Alain Brahim, je suis marié, je suis péruvien. Je suis monteur et aussi réalisateur vidéo. Je travaille au sein de la section vidéo qui est une unité de la division information publique de la MONUSCO. Je suis ici en RDC depuis mai 2007. Ça fait presque 6 années déjà. En tant qu'unité vidéo, nous produisons une émission télévisée hebdomadaire, On un magazine, qui est diffusée chaque semaine sur 9 chaînes de télévision les plus importantes de la RDC. À travers de ce programme, nous montrons les activités de la MONUSCO de chaque semaine et nous y produisons des portraits de Congolais qui, par leur travail, apportent quelque chose de positif pour le pays. Ils peuvent être musiciens qui ont fait une chanson sur la paix, un artiste, peintre, sculpteur ou un encadreur qui apprend aux enfants de la rue des petits métiers comme la céramique, la cordonnerie, des ouvres de art, etc. Chaque semaine, je suis obligé de trouver un Congolais pour en faire une histoire pour notre programme de télévision. C'est comme ça toutes les semaines. Et par moments, je descends sur le terrain pour filmer des histoires avant de me consacrer des autres jours de la semaine au montage des reportages réalisés. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai travaillé comme chef de montage pour différents programmes de télévision et de nouvelles dans mon pays, le Pérou, qui se trouve dans l'Amérique du Sud. J'ai aussi travaillé dans cette époque-là comme monteur de télévision et de films. Et j'ai également travaillé en tant que directeur de vidéos d'entreprise, parfois. Pendant mon temps libre, je lis, je regarde des films et je rédige, mais surtout je fais la musique. Hein. Depuis 4 ans, j'ai un groupe de musique où j'ai évolué avec des amis congolais comme chanteurs. Nous avons commencé comme un groupe de rock. À cette époque-là, on s'appelait les Vents des Sauvages. Après, on a évolué dans les salsa et on a changé le nom à Mundele et son Tumbaco. Présentement, nous préparons 3 concerts qui serviront de dire adieu aux Congolais parce que je vais bientôt quitter la mission, la MONUSCO, au mois de mai de cette année. Après la mission, je vais créer chez moi, au Pérou, une entreprise pour réaliser des films documentaires. Et si je trouve des amis dans la musique, comme je n'ai trouvé ici au Congo, pourquoi ne pas continuer à faire de la musique rock? Les plus grands souvenirs pour moi, c'est mes amis musiciens. J'ai partagé beaucoup de jours avec mes amis musiciens, avec les souffrances. Il y a beaucoup de choses compliquées pour les musiciens ici au Congo. Tu vois, il y a les problèmes des droits d'auteur, il y a la piraterie. Même s'ils font beaucoup de talent, ils ne peuvent faire rien parce que c'est très vraiment compliqué pour publier un CD. Il n'y a pas d'usine musicale. Donc, mes mémoires ici au Congo, tous les souvenirs les plus profonds pour moi, c'est tout le temps que j'ai partagé avec les amis musiciens, même dans les groupes et même dans la rue en train de s'amuser. Hein. Oui, je connais bien Kinshasa, je connais bien... Je connais Kimbanseke beaucoup, j'étais beaucoup de fois à Kimbanseke, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui habitent là. Je connais les esprits de mort, les mourats, je connais des choses que... Parce que mes amis congolais, c'est ils qui m'enseignent tout ça.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Je m'appelle Aristote Ombaro, je suis étudiant à l'Université Pédagogique Nationale. J'ai suivi dernièrement sur vos antennes un responsable de l'ONIDI RDC dire que c'est en 2011 que le bureau de cette agence a été réouvert. Peut-il nous préciser en quelle année ce bureau avait été fermé et quelles étaient les raisons qui avaient poussé l'ONIDI à la fermeture? Voilà ma question.
Nous avons contacté par téléphone Philippe Francillon, il est chef de projet à l'UNIDI en RDC. Voici sa réponse.
Aristote, bonjour. Je vous remercie pour votre question et la réponse est la suivante. Le bureau de l'UNIDI en RDC a été fermé en 1994. Après les pillages de 1993, la coopération ONUDI-Zaïre a été suspendue en 1995. Suite au développement des troubles politiques dans le pays. Elle a repris en 2004. Les relations ONUDI-RDC ont été assurées par la représentation de l'ONUDI pour l'Afrique centrale située à Yaoundé, au Cameroun. Et ce, jusqu'à la réouverture du bureau à Kinshasa en août 2010. Et je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Pour vos rendez-vous, retenez ceci. D'abord, contrairement à l'annonce de la semaine dernière, l'évaluation conjointe des programmes PNUD, UNICEF, PAM et UNFPA aura plutôt lieu le jeudi 21 mars prochain. La signature des plans d'action de programmes pays et le lancement de l'UNDAF, l'assistance des Nations Unies pour le développement de la RDC, aura lieu le vendredi 22 mars. Un autre programme à retenir nous vient du BIT, le Bureau international du travail. Ce mardi 19 mars, c'est le lancement officiel à Lubumbashi, dans le Katanga, du programme d'activité pour l'emploi des jeunes au Katanga. Ce programme est financé par le gouvernement belge à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains pour une durée de 36 mois. Enfin, la Banque mondiale annonce une revue conjointe du portefeuille avec la Banque africaine de développement, BAD. Elle est prévue pour le mercredi 20 mars prochain. Fin de ce numéro. De ce numéro du magazine des Nations Unies. C'était un plaisir pour moi, Mila Kimbini, de vous le présenter avec l'assistance technique de Dieudonné Nyangasa. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Ben Kabamba à la supervision, Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missenga au reportage. Vous pouvez réécouter cette émission tout à l'heure à 19h03, heure de Kinshasa, une heure de plus à Goma dans le Nord Kivu. Le magazine des Nations Unies est aussi à retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net. Vos suggestions, vos questions ou vos remarques, vous pouvez les poster comme commentaires en dessous de l'émission sur www.radiokapi.net ou carrément, vous pouvez nous appeler directement à ce numéro 082 30 76 630. Excellente journée dominicale à tous.